qui pourraient aimer que ça passe vite. Nos souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, influencent énormément la manière dont nous l'apprécions ou pas. Un sondage réalisé il y a des années de cela disait que 68% des Français considéraient que Noël rime premièrement avec cadeau et préparatif du banquet en famille et entre amis. Voilà toute la compréhension de Noël. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement, puisqu'on a aussi des enfants parmi nous, essayer un peu d'imager le message, tout simplement par donner un peu une compréhension du texte, mais aussi quelque chose qui peut rester finalement imprimé dans les cœurs. Quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous regardons autour de nous, nous sommes souvent pris par cette période pour faire la chasse aux cadeaux. Qui a commencé à faire la chasse aux cadeaux? Dites-moi. Ah, ça commence. Hein. On essaie de trouver le meilleur cadeau au meilleur prix. C'est bien, ma chérie. C'est parfait. Tu m'en as réservé un au moins de bonbons pour moi? C'est gentil. Ouais. Heureusement, il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est très gentil. Et quand on a acheté les cadeaux, chacun revient à la maison et je crois que chacun prend du temps pour faire quoi? À l'emballer. Hein? Il faut que le cadeau soit présenté d'une certaine manière. Donc on y met l'emballage, on y met le papier, on fait des jolis nœuds par-dessus. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont très doués, s'il y en a qui mieux qu'ils fassent autre chose. Hein, moi je suis entre les deux. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Alors il y a du scotch partout, bon, je fais comme je peux. Hein. Mais la parole de Dieu nous dit que, bien évidemment, le Seigneur, Dieu nous a fait un cadeau, mais il a prêté plus d'attention au cadeau lui-même qu'à l'emballage. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, il nous dira « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme ». J'ai voulu prendre cette même référence dans un autre texte, dans une autre version qui est un peu, je dirais, amené au langage qui est le nôtre, moderne. Et le texte dit ceci, « Il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes. Il fut ce que nous sommes est tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. » En réalité, la parole de Dieu nous dit que, contrairement à ce que nous aurions peut-être pu envisager humainement, d'offrir un cadeau particulier, si merveilleux, si glorieux, si important pour l'humanité tout entière, il aurait fallu mettre un peu plus de faste, n'est-ce pas? Quand nous lisons la parole de Dieu, il nous dit que lorsque Marie devait accoucher, finalement, elle n'avait même pas un lieu pour pouvoir accoucher. Ils étaient obligés de faire un voyage, un recensement, encore une fois, des démarches administratives. Parfois, ça arrive que des personnes qui attendent un enfant se trouvent sur chemin et je crois qu'il y a même quelqu'un parmi nous, elle est où? Son dernier enfant, elle a couché dans la voiture. Je me trompe? Lève bien ta main, elle est là. Voilà, ça arrive des choses étranges, n'est-ce pas? Et là, la parole de Dieu nous dit que Joseph était en voyage avec Marie, Zavir à Bethléem, alors que finalement, puisqu'il y a un cadeau si grand, si merveilleux, ils auraient dû préparer la salle des fêtes, non? Et tout le monde aurait dû être prêt à accueillir Marie avec Joseph. Mais la réalité, c'est que la réponse qui va être donnée, c'est pas de place. À cause du recensement, tout le monde était là, donc pas de place. Et pourtant, Dieu a choisi d'offrir un cadeau à l'humanité. Le roi des rois vient parmi les hommes comme un homme. Alors, pour donner un peu une image, hein, entre un beau cadeau bien emballé, on pourrait avoir le sentiment que finalement, pas d'apparence. Et si ce matin, quelqu'un devait choisir entre les deux, il réfléchirait, il se dirait quand même, il y en a un qui est bien emballé, le papier, il est top, ça brille, ça scintille, il y a un joli nœud, l'autre, du papier, on aurait l'impression que ça a été fait à la va-vite, on n'avait pas réfléchi. La réalité de la parole de Dieu, c'est que Dieu a bien réfléchi aux choses, sauf qu'il n'a pas voulu que les hommes soient attirés par un éclat, par une gloire, ou comme si le Seigneur était venu en mettre plein la vue. Mais la volonté de Dieu, c'était d'en mettre plein le cœur. Et Jésus ne viendra pas à étaler sa gloire, sa splendeur, mais il viendra parmi les hommes, il vivra parmi les hommes, il souffrira avec les hommes, parce qu'il voulait s'identifier à nous, pour que nous aussi nous puissions nous dire, « Mon Seigneur, mon Dieu, me connaît et il sait ce que je vis. » Il y a parfois des rêves que nous pouvons faire dans la vie, des rêves de réussite. Si vous demandez aux enfants aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Vous l'avez déjà posé cette question, non? Quelle est la réponse? Pompier, oui. Oui, c'est vrai. Policier, pourquoi pas? Quoi encore? Danseuse à l'opéra, institutrice, de moins en moins, parce que apparemment, ce n'est pas en vogue. Influenceuse. Les enfants, maintenant, vous dites, je vais faire influenceur. Je dis, tu n'as pas assez de grippe déjà pour être influencé par quelque chose? Et les enfants, aujourd'hui, ils rêvent, ils font des rêves. Mes fils, ils sont venus un jour, papa, je sais ce que je veux faire, testeur de jeux électroniques. Je dis, ça, ce n'est pas un métier, fils. Ça, tu le fais à temps perdu. Il faut un métier, il faut quelque chose qui te donne un avenir. Et quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que Dieu a envoyé son fils dépourvu de moyens, puisqu'il naît dans une famille qui a des moyens très petits. Très petits. Il naît dans une famille où... l'homme qui est là, c'est un menuisier, un charpentier. Marie, une jeune femme qui, à ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas le métier. On était là, on s'entraidait, on vivait de ce qu'il y avait. Il aurait pu naître auprès d'une cour, ça aurait été plus simple, non? La place qui devait peut-être lui revenir. Mais la parole de Dieu nous dit que la volonté de Dieu était finalement de pouvoir... pas seulement nous comprendre, pas seulement nous parler, mais aussi nous amener à faire un point. Dans le livre des Galates, au chapitre 4, les versets 4 à 5, il dit ceci, « Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Si nous regardons le côté historique, c'était un moment très sombre pour Israël. Ils étaient sous la domination romaine. Il y avait un tas d'influences qui venaient de tous les côtés, avec de l'idolâtrie, avec plein de coutumes, avec plein d'usages. Et le peuple était là, finalement, esclave, à payer des taxes aux Romains, à se retrouver de plus en plus soumis à une volonté d'un étranger qui ne les comprenait ni par leur histoire, ni par leur foi, ni par ce qu'ils vivaient. Et finalement, ils auraient pu se dire, mais Dieu nous a oubliés. La réalité, c'est que Dieu avait prévu toute chose. Et il dit le texte que lorsque les temps furent accomplis, Dieu finalement est celui qui gère le temps. Le temps est un élément dont Dieu a la maîtrise et la pleine connaissance. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Il est un temps où en réalité Dieu a tout prévu pour que finalement ce qui a au fond du cœur de chacun d'entre nous soit mis en évidence. Il y a un moment où nous passons finalement un scanner qui nous permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans notre cœur. quand on va passer un scanner, généralement, on a un tout petit peu de peur. C'est vrai ou pas? Et lorsqu'on accompagne les enfants chez le médecin, on leur dit, n'aie pas peur, c'est rien, tu verras. Tu dois faire le vaccin, c'est une petite piqûre. Mais combien de fois j'ai vu les grands venir me dire, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dois aller chez le médecin faire le vaccin. Je dois faire une prise de sang. C'est pire que les gamins. Finalement, au fond de nous-mêmes, nous avons tous certaines peurs, certaines craintes. Et il y a certaines réalités aussi. Chacun d'entre nous, il y a des choses que nous avons vécues et parfois nous avons tout simplement mis dans un placard parce que ces choses-là, elles nous ont marquées profondément, elles nous ont attristées, mais on ne les a jamais réglées. Qui n'a jamais fait de bêtises? Mon fils lève la main. Tu veux que je raconte devant tout le monde? On a tous fait des bêtises, c'est vrai? Des choses dont on n'est pas fier. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un moment où finalement que Dieu nous aide et nous garde de juger avant le temps, parce que à la venue du Seigneur, lui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, ce qui finalement est au fond du cœur. Mais en même temps, je vois que ce temps du jugement de Dieu n'est pas encore arrivé, doit arriver. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu avant? Parce que si aujourd'hui on était tous dans l'attente d'un jugement sans avoir une possibilité de faire appel, ben on se dirait les carottes sont cuites. Non? Mais en réalité, Dieu a envoyé son fils. Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dira « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » La plus haute dignité est venue parmi les hommes. Quel bonheur! Quelle grâce! Non? Ce matin, les enfants, ils nous ont exprimé à leur manière, ils ont voulu nous faire comprendre que finalement, il y a des questions qui ne sont pas que pour les grands, aussi les petits se posent des questions. Mais parfois, on leur a raconté des histoires, mais qui sont à dormir debout. Comme quoi un monsieur, très costaud, qui aime les biscuits, qui boit du lait, descend dans la cheminée. Il faut de l'imagination. Ah ouais, tu vois. Mais la réalité, c'est quoi? Alors un jour, un enfant, il a posé la question à son père, mais il fait comment, nous, on n'a pas de cheminée? Hein? Ma mère, elle me disait toujours que les mensonges ont les jambes très courtes. Ils ne peuvent pas courir vite. La réalité, elle nous rattrape. Parfois, on a pu dire, excusez-moi, des grosses bêtises aux enfants. Alors la parole de Dieu, elle veut remettre de l'ordre. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'encore ce matin, les enfants, ils ont posé des questions très pertinentes. Je ne sais pas si vous avez bien entendu les questions des enfants. Comment un Dieu si grand a pu vouloir choisir de venir comme un petit enfant? Quelle question! Comment? Moi, je dirais, pourquoi? Ou encore mieux, pour qui? En réalité, le Seigneur, il est venu pour nous. Et il dit la parole de Dieu qu'il est né sous la loi afin de racheter et nous offrir une rédemption, une adoption, nous sortir de notre misère, nous sortir de nos conditions d'esclavage du péché. Certains diraient, mais vous savez, on est libre aujourd'hui, on est en 2000, encore pour peu de temps, hein? On est libre. Je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux. Moi, je mettrai quelques nuances. Parce qu'en réalité, quoi qu'on se dise libre, il y a un péché au fond de notre cœur qui nous attache, qui nous lie, qui nous empêche de vivre bien des choses. Je dirais même que très souvent, il nous pourrit l'existence. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé un émissaire, quelqu'un qui était venu pour annoncer un message. Les enfants, ils nous l'ont lit. On va le relire ensemble, si vous voulez bien. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la suite dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et le message est que celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Beaucoup ont fait peut-être le choix du beau cadeau bien emballé. Vous savez, comme on peut avoir des beaux cadeaux bien emballés lorsque c'est les élections. Ah, il est beau le cadeau, hein. Vous travaillerez plus pour gagner moins. Ah non, c'était l'inverse, pardon. Hein? Moins d'impôts, moins de ceci, moins de cela, plus de temps. On se dit, oh là, s'il passe, lui, ben, je suis à la retraite avant le temps. Sauf qu'une fois que le cadeau est déballé, on se rend compte que finalement, il y avait des nuances qu'on n'avait pas compris. Il ne s'appelle plus impôt, il s'appelle autrement, mais on les paye quand même. Hein ? Taxe. En Italie, il y avait une taxe qui était sortie, ils l'avaient appelée unatantum. Ah, ils avaient sorti un truc en latin, ça fait beau, hein ? Unatantum, ça veut dire une fois de temps en temps. Mais en réalité, elle est devenue una semprum. Une toujours. Ces expériences, on les fait parce qu'on choisit parfois des cadeaux qui n'en sont pas un. Il est arrivé peut-être que vous ayez dit ou que quelqu'un vous ait dit « t'es pas un cadeau, hein ?» Ça veut dire quoi ? T'as bien caché ton jeu, tu sembles ceci mais la réalité n'est pas là. Dieu n'a pas voulu nous en mettre plein les yeux, comme je disais tout à l'heure, mais il a surtout voulu nous remplir le cœur qui était vide. Et si nous avons choisi quelque chose parce que ça a attiré nos yeux, finalement nous avons fait la même erreur que Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui ont pris le fruit parce qu'il était beau à voir. Mais le résultat fut quoi ? Qu'ils avaient tout perdu. Et alors que la parole de Dieu nous dit que Jésus, lui, par contre, il a fait le choix de se dépouiller. Alors, à l'image de ce cadeau qui est emballé dans du papier simple, avec une ficelle simple, la réalité, c'est que ce matin, nous devons nous faire l'effort, non pas de suivre ce qui attire nos yeux, mais ce qui devrait attirer notre cœur, la vérité. Jésus est un cadeau immérité. Il s'est dépouillé de sa gloire afin que la croix, qu'à la croix, il regagne pour nous ce qui avait été perdu en Éden. Peut-être quelqu'un me dira ce matin, vous savez, pour moi, Noël est un mauvais souvenir, un moment désagréable. Mais je voudrais vous dire, souvenez-vous, une seule chose qui compte vraiment, c'est que Jésus veut être votre sauveur. Parfois, les périodes sont terribles. Mon grand-père, qui aujourd'hui il est dans la gloire du Seigneur, il est né entre la nuit du 24 au 25. Mais cette même nuit, sa mère est décédée. Terrible, hein ? La même date peut sembler belle pour les uns et pour les autres peut être une telle souffrance. Et de ça, on a découlé beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Mais le jour où Jésus est rentré dans son cœur, tout a changé. Noël n'était plus cette date terrible, mais à Noël, mon grand-père, il était heureux de prêcher l'Évangile et de prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour sauver l'humanité, qu'il est venu pour prendre nos souffrances. Je voudrais dire ce matin, si quelqu'un a dans cette période un souvenir de douleur, le Seigneur est capable, lui, d'enlever la souffrance et vous donner quelque chose de bien meilleur. En Luc chapitre 4, versets 16 à 19, nous lisons ceci. Il veut dire Jésus, se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé, et comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture biblique. On lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe Et en déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit, et dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui, et dira aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui en avez entendu la lecture, cette prophétie de l'Écriture est devenue une réalité. Jésus est en train finalement d'enlever le papier et d'ouvrir le cadeau. Lorsque les enfants reçoivent des cadeaux, comment ils les ouvrent ? Je ne sais pas si vous avez les mêmes. Moi, les miens, ils y allaient avant. Ils secouaient tout doucement pour essayer de comprendre. Ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans le cadeau. Hein ? Ils étaient là, ils se disaient, ah, plus il est gros le cadeau, c'est à moi celui-là. Hein? Alors on l'aura fait une fois, on a pris un grand carton, on a mis un plus petit, un plus petit, un plus petit, un plus petit. Ben, ça a occupé un bon moment, hein, ils ont joué avec le papier. Jésus a voulu finalement révéler lui-même ce qu'il veut être pour chacun de vous. Il dira dans ce texte qu'il a été envoyé, qu'il a été amené à venir pour amener finalement ce dont nous avons besoin. J'aimerais terminer par cette lecture du livre des Actes au chapitre 3, verset 18. Parce que, encore aujourd'hui, devant vous, il y a ce cadeau. La Bible dit, tant que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Mais il faut le prendre, le cadeau. Il faut l'accepter, le cadeau. Si on nous offre quelque chose, imaginez que vous offrez quelque chose à quelqu'un. Vous l'avez invité, vous lui avez fait un cadeau, et il repart sans son cadeau. Qu'est-ce que vous vous dites ? Allez, soyez vrai. Hein ? Il ne l'a pas reçu avec plaisir. Peut-être qu'il l'a juste oublié. Hein. Alors on pourrait leur courir derrière et dire hey, « le cadeau !» Moi, si c'est une boîte de chocolat, je garde. Hein. Tant pis, hein. Je vous le dis. Hein. Il n'a pas voulu, tant mieux, il y en aura pour nous. Hein. Ah ben écoutez, qu'est-ce que Dieu doit dire alors qu'il nous a offert son Fils et que nous, parfois, on tourne le dos et on repart sans le cadeau qu'il nous a offert. Alors si ce matin quelqu'un voudrait réparer cette erreur, j'aimerais juste vous lire ce texte. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait fait annoncer d'avance par tous ses prophètes, à savoir que son Messie devrait mourir après avoir enduré bien des souffrances. Maintenant donc, changez, ça veut dire repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur, et il vous renverra celui qu'il vous destinait comme Messie, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. Rappelez-vous ce que les paroles de Moïse qui disait « Le Seigneur notre Dieu fera naître au milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez attentivement tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un refuse d'obéir à ce prophète, il sera exclu de mon peuple. » Après Moïse, tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Je bénirai toutes les nations du monde par tes descendants ». C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous apporter de grandes bénédictions. Elles seront vôtres à une condition, que chacun de vous se détourne de sa mauvaise voie. Amen. Je voudrais vous inviter ce matin à fermer tout simplement les yeux. Et si quelqu'un ce matin voulait finalement accepter le cadeau de Dieu, si quelqu'un ce matin finalement a réalisé que malgré qu'il a ouvert pas mal de cadeaux et ces cadeaux se sont transformés en quelque chose d'empoisonné ou quelque chose de pas vrai, moi je voudrais vous encourager ce matin à découvrir ce que Christ veut apporter à votre vie. Moi-même j'ai fait cette expérience. Et je ne peux que dire que le Seigneur a changé ma vie. Je ne peux que lui rendre grâce et je souhaite, je désire, je prie pour que le Seigneur fasse de même dans votre cœur. Mais cela ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Si aujourd'hui vous ouvrez votre cœur et vous invitez le Seigneur à venir dans votre cœur, il changera les choses. Il changera le mal en bien. Il vous donnera la paix dont vous avez besoin. Il apportera cette paix que vous avez tellement désirée. Et Dieu touchera pas seulement votre cœur, mais aussi votre famille, votre foyer. Seigneur, encore ce matin, ta main elle est tendue vers tous ceux et celles qui, Seigneur, désirent recevoir Jésus. Ce cadeau merveilleux, ce salut incroyable. Seigneur, nous voulons te prier encore ce matin que tous ceux qui, dans leur cœur, te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis, Seigneur, sentir, Seigneur, ta présence. Seigneur, pas seulement frapper à la porte de leur cœur, mais rentrer et changer leur avenir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, même si elle peut sembler tellement simple, tellement, parfois, comme d'un autre temps, elle est une réalité. Elle est pour nous aujourd'hui. Et, Seigneur, si nous n'avons pas pris la bonne décision, le jour où Jésus reviendra, ça ne sera pas pour sauver, mais ça sera pour juger. Et alors, Seigneur, nous serons dévoilés. Nous serons, Seigneur, présents devant toi et nous verrons, Seigneur, notre vie telle qu'elle a été, Seigneur. Et là, Seigneur, comment pouvoir expliquer que nous avons refusé ce qui aurait pu changer notre existence tout entière. Seigneur, que ta parole puisse continuer à travailler les cœurs. Je te le demande au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.